BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, il y a un gros problème à Sciences Po, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on va vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine et ce qui va se passer dans les mois qui viennent sur l'économie, sur la finance, sur les placements, sur la bourse, sur votre argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, impunité. Pourquoi les banques centrales n'ont-elles pas puni la France cette semaine avec la notation de la France ? On va vous expliquer les mystères de ce miracle français. La question macro, la banque centrale américaine va-t-elle baisser ses taux en 2024 ? Le chiffre de la semaine, on m'accuse souvent de faire du French bashing. Eh ben non, là c'est premier, la France, terre d'asile pour les investissements étrangers, numéro 1 en Europe. En deuxième partie de l'émission, bah évidemment la bourse, un petit coup de mou, toujours, hein, c'est mou depuis quelques semaines, avec la hausse des taux, avec les perspectives, la hausse des taux longs, avec les perspectives de baisse des taux qui s'éloignent un peu. Donc la bourse est-elle mûre pour une correction ? C'est la question qu'on va se poser. La question d'argent, c'est toujours la même chaque semaine. Quel est le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine ? Le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance, Bonségur. Ce n'est pas seulement un village avec un château Qatar, c'est aussi un monument de la gestion. François Chollet, vous êtes directeur général de Bonségur Finance. Bonjour d'abord.
Bonjour Marc.
Comment ça va Bonségur ?
Très bien.
Ouais, ça va. Vous êtes une des rares sociétés de gestion qui sourit.
Oui, on a la chance d'avoir des gérants qui font de bonnes performances. Ah oui, parce remarquer en ce moment. Et
franchement, il y a plein de gérants qui font la gueule.
Écoutez, il y a beaucoup de concentration dans notre métier. Il y a beaucoup de réglementation. De plus en plus dur. On a beaucoup de chance.
Et puis c'est dur de battre les benchmarks, quoi. À chaque fois, de battre les indices.
Un peu moins cette année, peut-être.
Un peu moins cette année. Très bien. Calme, très calme. Chic, très chic. Incisif, très incisif. Notre économiste vedette venu de Suisse, chef économiste de l'Union bancaire privée, Patrice Gautry. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Merci, le plaisir est partagé.
Et toujours
ça me coûte
un exemple.
Plus cher parce que le franc suisse a baissé, alors.
Ah, mais ça va,
mais
alors.
Je viens avec plaisir.
Le franc suisse a baissé.
N'est-ce pas ?
C'est tellement rare.
Oui.
Il ne jure que par les petites valeurs. Il va nous annoncer enfin. Donc ça, c'est le coup. Ne dévoilez pas, Eric Lewin, quand elles vont rebondir. Eric Lewin, vous êtes rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour.
Bonjour. Je suis pas d'accord avec vous. Ça rebondit. Sur un mois, le CAC 40 fait moins 0,5. Le CAC Small fait 3%. Ah ouais. Vous voyez que ça a quand même rebondi. Je ne vais pas l'annoncer. Ça commence à mûrir, cette histoire.
C'est vrai, vous le sentez là ?
Oui, je le sens bien.
Je ne voulais pas le dévoiler parce que c'était
pas. Il y a pas mal d'opérations. Believe, Micropole, Aurès Technologies, ça commence à bouger quand même.
Oui, mais enfin, si c'est que des boîtes qui partent de la bourse et aucune qui rentre.
D'accord, mais il y a quand même des primes entre 30 et 60%. Alors quand il n'y a pas de prime, on gueule. Quand il n'y a pas de prime, on
gueule.
Et quand elles sortent de la bourse, on gueule.
Non, moi je gueule toujours pour la même raison, c'est-à-dire de voir de belles boîtes sortir. Et pas de belles boîtes rentrées, bah, franchement, ça me fatigue.
Mais pourquoi vous voulez rentrer en bourse alors que vous avez une décote de 25% entre le côté et le non-côté ? Vous préférez rester
triste,
dans le monde
ça.
Du private. Bien sûr,
mais
pour l'instant, c'est comme ça. Vous préférez rester dans
mauvais
le private.
Pour la c'est mauvais pour vous, ça.
C'est très mauvais pour moi. La cote s'appauvrit, mais il y a quand même de belles opérations, donc on peut faire rêver quand même nos amis auditeurs et téléspectateurs.
Bon, allez. Elle nous avait annoncé que l'inflation aux États-Unis, on était tous en train de dire « Ah, c'est fini, l'inflation, on n'en parle plus, passons à autre chose ». Elle nous avait dit « Ça fera mieux que résister, ça va même peut-être rester très élevé ». La grande prêtresse des taux d'intérêt, Valentine Hennouz, vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute. D'abord, bonjour.
Bonjour Marc.
Bon, pour une fois, vous n'êtes pas planté.
Pour une fois, on espère.
En tout cas, bravo, c'était bien vu. Alors, on va en reparler justement tout à l'heure, on va parler de la Fed. Mais d'abord, je voudrais commencer avec un sujet qui me tient à cœur. Je ne sais pas si c'est à cœur ou qui me fait de la peine et qui m'énerve. C'est l'impunité de la France. Nous conservons nos étoiles. C'est la chanson de Louane qui s'appelle Les étoiles. C'est pour ça que je fais un jeu de mots. De Louane, vous connaissez pas Louane ?
Ah si, si, celle qui chantait Sardou, là, ouais.
C'est ça.
C'est de plus en plus has-been chez vous.
Ah non, Louane, c'est pas has-been. Oh, elle est dans
c'est pour les midinettes entre 22
alors,
et 24
alors,
ans.
Attendez, je vais vous dire comment je fais pour préparer l'émission. Je vois les meilleurs hits français du moment et elle est dans le top 10. Alors ? Qu'est-ce qui est has-been ? Alors, nous conservons nos étoiles. La notation de la France n'a pas été dégradée. Malgré notre déficit, malgré notre dette, malgré notre gestion catastrophique des dépenses publiques, je n'arrive pas à comprendre Patrice Gautry. Et en fait, je regrette qu'on ne soit pas dégradé, puisque je pense que tant qu'on ne sera pas dégradé plusieurs fois, on ne prendra pas les mesures nécessaires pour gérer nos dépenses publiques qui sont dans un état de délabrement total. Patrice, Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors impunité, c'est un jugement.
Impunité. Et,
alors il n'y a pas impunité. Je ne serais pas en accord avec ce terme. Il y a des arbitres et il y a deux arbitres qui sont importants. Il y en a un qui s'appelle le marché. Et le marché, lui, dit il n'y a pas de problème majeur, puisqu'en fait, le spread avec la main, l'écart de taux entre les taux français et les taux allemands est à peu près stable dans un environnement entre 40 et 50 points de base.
D'accord, donc, on sait pourquoi ça. On sait pourquoi ça. On sait parce qu'on a, on a la garantie de l'Europe, on a la garantie de l'euro, on a la garantie de l'Allemagne, non?
Oui,
c'est pas ça que doivent voir les agences de notation. Elles doivent voir notre capacité.
Alors, le deuxième arbitre, qui lui va être un peu plus actif dans les prochains mois, ça s'appelle la Commission européenne, puisque on doit, la France doit présenter donc les plans budgétaires 2024-2025, et il est pas impossible que le juge d'arbitre qu'est la Commission européenne dise que la France, comme la Belgique, comme l'Espagne, comme l'Italie et comme d'autres petites économies de la zone euro, puissent entrer en ce qu'on appelle en procédure de déficit excédentaire. C'est-à-dire que les budgets vont être regardés à la loupe et l'État, les États concernés vont être obligés de négocier avec la Commission européenne un plan.
C'est bidon, ça. C'est l'école des femmes. On va leur retirer des bonbons.
Alors, non, c'est pas bidon. D'abord, parce que si les notes n'ont pas été changées, alors je ne suis pas là pour excuser, effectivement,
Je comprends.
Les agences de notation qui n'ont jamais été des lanceurs d'alerte.
Non, c'est vrai.
D'accord, l'incendie se déclare, elle dit qu'il y a au feu. Donc on a bien vu dans le passé. Il n'y a pas eu changement de note et il n'y a pas, je dirais, aggravation particulière parce que on a acheté en quelque sorte une paix budgétaire avec 20 milliards d'économies. Donc on va voir si l'État réalise ces 20 milliards d'économies.
De propositions d'économies qu'on n'a pas réalisées.
20 milliards d'économies à venir.
Donc, à venir,
il faudra effectivement voir comment ça s'implémente, parce que à ce moment-là, on peut rebondir sur l'actualité récente avec un État qui rachète une société qui détient visiblement des trésors nationaux et des secrets nationaux, et tout le monde effectivement dit que c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi de l'utilisation de l'argent public. Alors après, il y a un autre point, c'est-à-dire on veut bien arrêter, si vous arrêtez la dépense publique, qui est de la consommation publique et de l'investissement public.
Je ne dis pas de l'arrêter, je dis de mieux la gérer.
Alors, mais aujourd'hui, c'est simplement pour vous sensibiliser sur cette matière, si on ne fait zéro dépense publique au premier trimestre, si on avait fait zéro dépense et zéro investissement public, le PIB n'aurait pas progressé de 0,2%.
Super performance. 0,2% de progression avec un déficit à plus de 5%.
Alors, il n'aurait pas progressé de 0,2, il aurait reculé de 1,5%. Et à 1,5%, il y a tout le monde qui va activement monter au créneau en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Donc, le problème, en fait, c'est une gestion dynamique.
Ce que vous êtes en train de décrire, c'est une spirale de la mort.
Non, la spirale n'est pas encore là. La spirale n'est pas encore là parce que l'élément le plus inquiétant, en définitive, ce n'est pas de faire de la dette. Ce n'est pas, je dirais, d'essayer de courir après la croissance, puisqu'en fait, on voit bien que c'est un jeu où on essaye d'avoir une flexibilité de l'économie qui permette une croissance potentielle supérieure à ce qu'elle a été. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, on a une charge d'intérêt qui est importante et que cette charge d'intérêt, elle peut devenir potentiellement encore plus importante si jamais le taux de croissance passe en dessous, en fait, des taux d'intérêt. Et là, effectivement, c'est plus pour l'obligataire.
Valentine, ça vous choque pas, vous, qu'on continue à avoir 18 sur 20 alors qu'on a une copie qui est nulle?
On peut être quand même assez étonné qu'ils aient maintenu l'outlook
stable.
Ils auraient peut-être pu mettre un outlook négatif. Mais ça n'aurait pas eu un grand impact sur les marchés obligataires. Après, si on lit la note de Moody's, ils reconnaissent quand même le dérapage budgétaire. Ils reconnaissent quand même la très forte augmentation de l'endettement français depuis le Covid.
Ils disent copie nulle, mais 18.
Et puis ils disent, on est quand même assez prudent sur la capacité de la France à faire revenir son déficit à 3% d'ici 2027.
Il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire qu'on est, si vous voulez, là où je ne suis pas d'accord avec Patrice et de façon générale, c'est de dire il n'y a pas de sanction des agences de notation. Il n'y a pas de sanction de l'Europe, parce que la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous mettre une amende?
Non, elle va négocier un plan de réduction, et ce plan de réduction,
c'est quoi leur mesure de rétorsion si on ne le fait pas? C'est-à-dire si on présente...
Alors, il y en a une qui est très très simple et qui fait appel au marché obligataire. C'est à partir du moment où, imaginons qu'un pays, que ce soit la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, disent « je ne suis pas d'accord et je vais continuer sur ma trajectoire budgétaire ». Les soutiens automatiques s'arrêtent.
De la BCE ?
les soutiens automatiques avec les fonds structurels vont s'arrêter. Okay. Et moment-là, il va y avoir un dérapage. C'est pour ça que je dirais que ce n'est pas un jugement, ce sont des arbitres. Les marchés vont jouer leur rôle. Et à ce moment-là, il y aura un écartement des spreads. La BCE ne pourra pas activer le TPI. Parce que, effectivement, le TPI, c'est en fait quelque chose qui permet à la BCE d'intervenir pour soutenir un pays qui serait en difficulté sur les marchés obligataires, écartement des spreads, là je pars sous votre contrôle, à partir du moment où vous avez négocié un plan de réduction pluriannuel. Je suis désolé, c'est des détails.
Non, c'est intéressant, mais il faut qu'on rentre dans les détails.
Et ça, ça a été mis en place parce qu'effectivement, il y avait à un moment une crainte sur l'Italie, que l'Italie, à un moment de fragilité, ait, je dirais, une tension des spreads supérieure. Bien, donc ça veut dire que effectivement, ne pas rentrer dans les clous imposés et qui sont relativement gentils comme critères, c'est-à-dire vous devez réduire votre dépense publique moins 0,2 ou votre déficit moins 0,2, moins 0,3, moins 0,5. Mais ça veut dire que vous avez une constante budgétaire.
Ce que je trouve très bisounours, c'est quand on regarde dans le plan donné par le gouvernement pour le retour à 3%, c'est il y a une discipline budgétaire qui est très forte, mais qui va être fait 2026-2027, donc pas grand-chose vont être fait cette année.
Ça, on est d'accord, c'est pas crédible du tout.
Et en plus, les chiffres de croissance qui accompagnent, qui sont dans ce plan, sont très très positifs dans un environnement où on doit faire de la consolidation budgétaire. Ce qui joue très positivement pour
Ce qu'on est en train de dire, c'est que tout le monde sait qu'on va pas y arriver, mais tout le monde fait semblant. Eric Lewin.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que dans les critères de Standard & Poor's, Moody's et Fitch, c'est pas simplement déficit budgétaire et dette publique, c'est la stabilité des institutions, la stabilité démocratique, la capacité à lever de l'impôt, la croissance, l'inflation,
le chômage. L'épargne des ménages, l'épargne des ménages.
C'est très important.
C'est-à-dire,
en France.
Ce qu'il faut dire, c'est que l'épargne des gens qui nous écoutent sert de garantie.
Bien sûr.
Pour les dérapages budgétaires.
Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de baisse de la note, parce qu'ils prennent tout ça en considération avec des coefficients de corrélation. Alors que nous, on se focalise sur déficit budgétaire et dette publique. Bien sûr, si on regarde tous ces deux indicateurs, il faut baisser de 2 crans, voire de 3 crans.
C'est affolant pour les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire, ils sont en train de se dire, globalement, l'argent qui est dans mon contrat d'assurance vie, s'il y a un problème financier, on va venir me le faire.
Vous savez qu'aussi, les agences de notation, on peut en parler. Enron, en 2002, c'était investment grade.
Ouais, c'est ce que dit.
Trois semaines après, faillite. Aux États-Unis, en 2011, sur la dette des États-Unis, il s'était planté 2000 milliards de dollars. Donc, on peut aussi en parler de la notation des agences de notation.
Et ce qui joue très positivement aussi, c'est le marché français, la France qui se finance extrêmement facilement sur les marchés. Ouais. Ils ont 285 milliards d'euros
Patrice,
à financer.
Les marchés jouent le rôle d'arbitre.
À financer cette année, et ça se finance, et il y a une demande qui est extrêmement
220%.
Forte.
220%. Taux de couverture, 220% des dernières obligations.
Exactement, il y a une demande qui est très...
Pourquoi les gens,
parce que les gens déjà, c'est un bon rating. Non, mais c'est la France, nous, on regarde, on est très critique, mais ça reste quand même un 2A. Et puis, les fondamentaux du pays... plus largement hors déficit, dette sur PIB, sont bons. Et exactement ce que vous disiez, c'est que la France fait substitut de dette pour les très bons élèves de l'Europe. Les très bons élèves comme l'Allemagne émettent peu. Si un investisseur veut se positionner sur de la dette de qualité en Europe, eh bien, il achète de la dette française.
Donc, merci l'Allemagne et merci notre épargne. François Chollet.
Merci notre épargne, c'est vrai ça. C'est-à-dire que si on prend l'endettement total... le pays, les ménages, les entreprises, finalement, dans un cas, on a certains pays qui sont très peu endettés au niveau de l'État, mais on a des ménages qui ne sont pas forcément très fortunés. Et nous, on voit bien que dans les pays d'Europe du Sud, l'épargne est surabondante, mais elle fait face aussi à un endettement croissant de la part de l'État et de l'administration. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve maintenant depuis de nombreuses années. Et on voit bien que les réactions, d'ailleurs, de l'épargne face à cela sont très marquées. À chaque fois que les citoyens perdent confiance dans la capacité de leur gouvernement, on a un surcroît d'épargne qui vient se faire à la place, peut-être, de la vertu publique vis-à-vis des budgets. Après, moi, je partage l'avis qui est sur la liquidité et la qualité. On peut saluer l'Agence France Trésor qui fait un travail remarquable. Ils ont été capables d'allonger très significativement les maturités de la dette française à des taux battant toute concurrence. Et donc, oui, les taux peuvent monter, mais avant que ça ait un impact très significatif sur le budget, il faudra de nombreuses années, parce que c'est maintenant un huitième par an ou un neuvième par an qui doit être renouvelé, et non pas un cinquième comme on pouvait y avoir il y a quelques années.
Patrice, on a raison de mettre en balance la dette de l'État et l'épargne des Français ?
Oui, parce que d'abord, en fait, c'est pas que l'épargne des Français, c'est, je dirais, les actifs détenus par la France ou les actifs nets en France. Et ce qui, effectivement, participe à l'idée que, en définitive, on a une dette vraiment très importante.
Oui, mais notre épargne, c'est pas l'actif du gouvernement, ça.
Non, après, ce sont l'ensemble des actifs. Il y a des actifs
c'est
aussi.
C'est mon pognon.
Oui,
mais... Qu'il en reste, qu'il en reste.
Mais vous avez...
moi, je veux pas qu'ils viennent prendre mon pognon pour rembourser la dette.
Ah, ça, mais c'est notre histoire.
Je pense pas que ce soit dans les critères dans les pays développés, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Par contre, il y a un point effectivement sur lequel je voudrais rebondir parce que vous l'avez évoqué, c'est l'endettement total. C'est 400% du PIB de toute la dette accumulée en France. Ce qui a fait beaucoup par rapport à un 340 à peu près de mémoire. Là, sur la base des chiffres du dernier trimestre. Le secteur le plus endetté en France, ça n'est pas l'État, rapporté au PIB, ce sont les entreprises non financières, 150% du PIB. Alors là, on est dans un processus de désendettement. Le désendettement a été plus vite du côté des entreprises qu'il n'a été du côté de l'État. Et il se poursuit alors que l'État, lui, est en train de se stabiliser. Donc, attention, la dette, le mistigris de la dette, en quelque sorte, il se promène, mais les entreprises françaises sont plus endettées rapporté au PIB, que les entreprises en moyenne en zone euro. Donc ça, c'est une autre...
Je n'ai jamais vu aussi d'effet, Marc.
Non, je vais planquer mon pognon en Suisse. Je n'ai pas envie qu'ils viennent. Je vais aller chez...
Il y a des bons rendements chez Patrick.
Patrick, j'arrive chez vous la semaine prochaine. La question macro de la semaine, tout de suite. La Banque Centrale Européenne va-t-elle baisser ses taux en 2024? C'est incroyable, en fait. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que malgré la globalisation de l'économie, malgré tout ce qui s'est passé, on est encore pendu au mot que va déclarer le patron de la Fed. Quand j'ai démarré sur le marché, il y a plus de 40 ans, c'était déjà ça. C'est encore ça. Pourquoi tout le monde regarde le taux d'intérêt américain? Ça me fascine vraiment. Encore aujourd'hui, alors que l'économie est globalisée, il y a la zone euro, il y a la Chine, il y a tout ça, Valentine.
Bah, ça joue après énormément sur les devises, hein, parce que là, si on regarde les différentiels de taux entre l'Europe et les États-Unis, ou encore entre les États-Unis et le Japon, on voit après que ça pénalise énormément les devises. Et après, si
donc vous dites que c'est parce que ça touche les devises que tout le monde le regarde? Parce que l'économie américaine a une place importante aussi, j'imagine.
Et puis après, la bourse américaine.
Il y a des corrélations importantes sur les actifs risqués, entre tous les différents actifs risqués. Je dirais même plus, une économie qui est plus financiarisée, on commence à avoir plus de corrélations sur les actifs, entre les actifs financiers. Mais il y a quand même des différences extrêmement importantes entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, on a 80% du financement de l'économie qui passe via les marchés. En Europe, on est encore à 20%. Et ça marque quand même une dépendance.
C'est des vrais chiffres, ça, vous les avez inventés?
Non, ce sont des vrais chiffres. Ah ouais, pas mes chiffres.
C'est impressionnant. Oui,
premier tac de Marc Fiorentino contre Valentine depuis
non,
l'émission.
Non, ce sont des vrais chiffres.
Non, parce que les
enfin,
chiffres.
Enfin.
Non, parce que ce chiffre.
C'est pas toujours les mêmes.
Ce chiffre, il est énorme. Mais il est énorme. Ben oui, il est fou.
Vous pouvez le répéter parce que pour les gens qui n'ont pas.
L'économie américaine se finance.
Attention, Valentine a dit un truc intéressant. Allez-y.
L'économie américaine se finance à 80% via les marchés, ouais. Alors qu'en zone euro, on est une économie qui se finance beaucoup plus via le système bancaire. Les
Valentine, vous avez dit que l'inflation, on était trop optimiste, elle n'allait pas baisser aussi vite aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez maintenant?
Je pense qu'on est toujours dans une séquence où l'inflation va rester extrêmement résiliente. Hein,
c'est pas ce que dit Amundi à cette management.
Si, on est toujours sur...
Ils disent que l'inflation...
Elle va recevoir une lettre de licenciement lundi matin à 9h.
On est toujours sur... On a, de toute façon, si on regarde nos projections de l'inflation, on est toujours en ligne avec ce que pense... sur les prévisions de la Fed et avec un risque d'avoir...
Donc l'inflation va baisser quand même.
Oui, évidemment que l'inflation va baisser. Mais après, c'est dans quelle proportion elle va baisser.
Et à quel rythme.
Et surtout, pour quel coût de croissance elle va baisser. Donc aujourd'hui, si on regarde l'économie américaine, elle est résiliente. Pour différentes raisons. On a des changements structurels qui sont extrêmement importants par rapport au cycle précédent. Par exemple, si on regarde le soutien budgétaire, c'est inédit. Si on regarde le marché de l'emploi, on est toujours sur un marché de l'emploi.
Et si on regarde leur industrie, la tech, l'armement, l'énergie.
Si on regarde sur les entreprises, il y a des gains de productivité qui sont importants.
Énorme.
Et aussi, ce qu'on ne regarde pas forcément sur les marchés actions, c'est que je le regarde beaucoup du côté des obligations, les entreprises, depuis le Covid, sont extrêmement, extrêmement prudentes. La croissance de leur dette est très faible. Et ils sont très focalisés, préservation de leur marge, gestion des coûts et gestion du bilan au plus près. Et si on regarde les ménages aussi, la sensibilité du bilan des ménages au taux est très faible, hein, parce que les ménages, ils sont, contrairement à 2008, on était endettés à taux variable. Là, les ménages, ils sont à taux fixe. Le coût moyen du mortgage, il est à 3,6 et sur des maturités longues. Et si on regarde l'immobilier résidentiel, on a encore un changement structurel très important par rapport à 2008. Il n'y a pas de bien à vendre. Donc on est vraiment dans un environnement qui est très différent. Mais juste un dernier mot, on a l'impact.
Vous ne voulez pas laisser parler,
Patrice. Mais l'impact des taux.
Lui piquer les États-Unis, Marc, vous n'avez pas compris. C'est à elle, les États-Unis.
L'impact des taux est extrêmement visible juste sur les segments les plus vulnérables, les ménages à bas revenus. Et les entreprises les plus fragiles qui ont les niveaux de dette les plus élevés.
Les ménages à bas revenus, Eric Lewin, ils s'en foutent complètement. C'est pas son sujet.
Globalement, ce ne sont pas eux qui consomment le plus, mais c'est quand même 30%
évidemment,
des ménages.
Eric, je comprends pas, c'est vraiment c'est important.
C'est ce qu'on apprend en économie, la propension à consommer.
Oui.
Que va faire l'inflation aux États-Unis? Que va faire la Banque centrale américaine?
Alors, vous avez parfaitement décrit l'exception américaine qui prévaut aujourd'hui.
Il ne répond pas à la question. Hein.
Ah, si, il répond.
Mais je donne du contexte.
Yes.
Et qui fait qu'effectivement la Fed et les taux américains constituent un ancrage pour le reste des pays développés. On le voit bien avec l'exemple et indirectement on peut prendre l'Allemagne qui est quand même pas au meilleur de sa forme et le taux allemand à plus de 2,50% qui réagit un pour un en quelque sorte avec ce qui se passe aux États-Unis alors qu'on pourrait faire un découplage relativement intéressant entre les deux. L'inflation américaine, ça fait depuis le mois de juillet 2023 qu'elle est au-dessus de 3%. Elle est même à 3,5%. Elle va rester encore à 3%, au-dessus de ces 3%, jusqu'en septembre, selon le scénario que j'ai un petit peu en tête. Alors, on va réduire sur les indices techniques, cœur, c'est-à-dire on enlève l'alimentaire, on enlève l'énergie. Et sur les deux indices cœur que suit la Fed, le Core CPI et le Core PCE,
prenez des notes,
on va être à progressivement de 5, de 6, de 7, de 8. Donc on va aller vers du 2,5, mais ce 2,5 il ne sera atteint pour tout le monde, pour tous les indices, qu'au premier trimestre 2025.
C'est votre anticipation?
C'est le scénario avec lequel on travaille.
Et du coup, baisse des taux aux États-Unis?
Alors la baisse des taux, il faut être patient, et c'est ce qu'a habilement présenté Powell, c'est-à-dire que en fait, il a réussi le pari de dire je ne ferai rien, je ne baisserai surtout pas les taux, mais le dire d'une façon si douce et si gentille que il laisse des portes ouvertes pour la réunion du mois de décembre et puis après encore quelques baisses de taux.
Donc vous dites rien avant décembre, vous?
C'est fort possible, rien avant décembre. Et il a même donné ce qu'on appelle le Fed put, c'est-à-dire en fait l'assurance sous risque, en quelque sorte, de la Fed. Si jamais le marché du travail se casse la figure, c'est-à-dire en fait une forte remontée bien au-dessus des 4% du taux de chômage, alors là, la Fed peut anticiper des baisses de taux.
Baisse de taux, quand ?
Baisse de taux, nous on attend 2 à 3 baisses de taux cette année, plutôt.
Enfin, ah, encore aux États-Unis, encore, vous attendez encore 2 ou 3 baisses de taux?
Ouais, 2 ou 3 baisses, ouais.
Ah ouais.
La question qu'on doit se poser vraiment pour moi aujourd'hui, la question simple, c'est est-ce que les conditions de financement aujourd'hui sont restrictives pour l'économie américaine?
Et vous dites non parce qu'il y a le budget.
Je dis, c'est pas forcément évident parce qu'il y a toute une partie de l'économie américaine aujourd'hui qui est peu sensible au taux. Si on prend par exemple tous les ménages les plus aisés, quand on a plus d'actifs que de passifs, et ben les hausses de taux, c'est positif.
Il y a les dépenses budgétaires.
Il y a les dépenses budgétaires et si on regarde les entreprises, les grandes entreprises, elles sortent d'une décennie de Covid, de taux bas. Elles ont pu refinancer leur dette et allonger la maturité moyenne. Le coût moyen de leur dette est bas. Et donc, les taux élevés vont mettre un certain temps avant d'impacter ces grandes entreprises.
Alors, tout ce qu'on a raconté sur ce plateau, qui était de dire... Non, mais c'est pas tellement ça, c'est de dire au bout de 18 mois, vous allez voir, il y a un décalage, la hausse des taux va avoir un effet incroyable sur l'économie au bout de 18 mois, 2 ans. C'était faux, en fait.
Mais moi, je
On l'a répété, nous, pendant des semaines, moi,
compris. Oui. Non, et je resterai assez prudente avec le fait de penser qu'à un moment donné, on puisse pas avoir un ralentissement fort. Juste pour l'instant, on reste dans cette séquence où l'inflation est élevée et la Fed va devoir maintenir ses taux plus élevés plus longtemps pour faire baisser l'inflation. On est encore sur cette séquence. Mais il ne faut pas oublier que des taux plus élevés impactent l'économie. C'est juste que le décalage, on ne le voit pas.
Dit 18 mois, 2 ans.
Non, mais ça peut être beaucoup plus long parce qu'il y a des changements structurels qui sont importants. Du soutien budgétaire, on sort d'une période Covid où il y a eu un soutien budgétaire monstrueux. On sort d'une période de taux bas. Donc on est dans un contexte avec des changements structurels qui sont différents. Donc ce lag, ce décalage traditionnel entre hausse de taux, impact, peut être complètement bouleversé.
François, on a une petite minute. Est-ce que vous, en tant que gérant, vous regardez, vous êtes collé aux paroles de la Fed ou vous dites non, je regarde les fondamentaux des boîtes?
J'aimerais bien, mais en fait, la réalité, c'est qu'on est collé aussi, puisque ça impacte significativement les marchés. Il y a quand même un propos qui a été important dans les dernières communications. C'est vrai qu'il y a peut-être participé aussi du fait de faire passer un peu la pilule d'un retard sur les baisses de taux. C'est aussi la façon dont il a guidé sur la baisse de la taille du bilan de la Réserve fédérale. On aurait pu craindre que la Réserve fédérale diminue très vite, plus vite encore, la taille de son bilan. Et il s'avère qu'il a beaucoup temporisé là-dessus, de façon à rassurer un petit peu sur la liquidité dans le système. Et là, pour le coup, on le sait bien, les marchés sont bien piqués à la liquidité des banques centrales. Et donc, lorsque vous avez un signal comme celui-là, on vient un peu adoucir.
Ça vous a rassuré, vous,
ce c'est un peu rassurant. En tout cas, c'est ce qui a été sur les marchés. En tout cas, un facteur de soutien qu'on a eu quelques jours après, alors qu'on aurait pu s'inquiéter du retard de baisse de taux.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour se poser la question de savoir si la correction de la bourse va continuer ou elle va rebondir. Quel est le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. À tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission avec Valentine Hennouz, avec Eric Lewin qui a trop parlé en première partie, avec Patrice Gautry qui a pas assez parlé en première partie, et François Chollet qui va beaucoup parler en deuxième partie. Et je voudrais parler d'un thème qu'on n'a pas abordé en première partie parce que vous avez été très long mais passionnant. C'est le fait qu'on soit premier, parce que bon, on m'accuse souvent de faire du French bashing. Donc cocorico, la France est toujours le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers, même si ça a baissé de 5%. En 2023, on est devant la Grande-Bretagne, on est devant l'Allemagne. Patrice Gautry, pourquoi la France attire-t-elle autant les investisseurs étrangers ?
Oui, alors, il y a trois caractéristiques qui sont à peu près constantes en fait dans ce type d'enquête qui reviennent. Ce sont les compétences donc de la main-d'œuvre française, ce sont les infrastructures françaises, donc elles plutôt bien positionnées, et le marché, à la fois le marché français avec la consommation, mais aussi bien entendu l'accès au marché européen. La France bénéficie effectivement en ce moment et depuis deux ans de la faiblesse du Royaume-Uni et de l'incertitude du côté allemand. Donc effectivement, en terre d'accueil, c'est plutôt la France qui va en bénéficier. Mais attention, et la note d'ailleurs en fait qui a été publiée mentionne aussi qu'il y a un petit retour notamment des investissements en faveur du Royaume-Uni, notamment sur un secteur important, c'est le côté digital et le côté innovation. Donc en fait, cette situation-là est bonne, mais elle peut évoluer. Elle peut évoluer notamment dans des secteurs qui étaient des secteurs stratégiques importants comme l'aéronautique, la chimie, la pharmacie, où là, effectivement, il y a un petit peu de perte de vitesse, même dans ce bon rapport.
Mais vous comprenez que c'est étonnant pour des gens qui nous écoutent chaque semaine dire « la France, c'est compliqué, le travail, les lois, la réglementation, le coût social », et puis d'un autre côté, en fait, on nous dit « pas du tout, en fait, vous arrêtez pas de critiquer la France, mais la vérité, c'est que les étrangers viennent investir en France ».
Oui, alors il y a une vision, effectivement, en dehors de la France, qui est moins négative, effectivement, même si effectivement les investisseurs sont parfaitement au courant des problèmes de fiscalité, des problèmes éventuellement de climat social et des problèmes de tracasserie administrative. Mais ceci n'empêche pas effectivement, je dirais, d'investir, d'abord parce que vous avez aussi une attractivité qui est aidée par des aides. Et là, on retrouve un discours avec des aides publiques ou des aides régionales à l'implantation.
Très important pour les investissements étrangers, ça.
Oui, c'est important. On l'a vu effectivement quand Tesla voulait positionner sa Gigafactory en Espagne, en Allemagne ou en France, et tout le monde a déployé le tapis rouge et les invitations en cette faveur.
Eric, vous vouliez dire un mot ?
Non, j'ai... Ce qu'on note quand même, c'est 64% des investissements, c'est des réinvestissements d'entreprises déjà présentes.
Ouais, enfin, c'est
d'accord,
déjà pas mal.
D'accord, mais il n'y a pas tellement de nouvelles entreprises quand même.
Ouais, mais enfin, c'est déjà pas mal. Et le fait qu'on travaille
Et puis l'Europe est en forte baisse quand même sur 5 ans.
Et le fait qu'on ne travaille pas tout le mois de mai, ça ne fait pas peur aux étrangers. Ça, c'est super. Allez, on passe tout de suite au marché.
En fait, il essaie de me piéger sur des trucs dingues.
Bon, c'est mou, hein. Franchement, la performance depuis le début de l'année, chaque semaine, elle s'effrite un peu. Bon, on est toujours en hausse, hein. Le CAC est à peu près à 5% de hausse, S&P 6%, le Nasdaq 6%, l'Eurostock 50, on est à 8%, pardon, le Nikkei 14%, Shanghai 4%. Allez, Eric, c'est à vous. Les marchés, vous en pensez quoi ?
Non, mais les marchés, écoutez, franchement...
D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on s'effrite comme ça, que ce soit pas...
Moi, je trouve quand même qu'on tient plutôt bien, parce que je vous rappelle quand même qu'en début d'année, on prévoyait 6 baisses de taux aux États-Unis. Ouais. Là, on n'en aura sans doute qu'une seule.
Non, Valentine, elle dit 3.
Moi, je pense qu'on en aura...
Patrice, il dit 1 à la fin de l'année.
Je pense qu'on en aura qu'une seule, et surtout, je trouve que les taux longs ne sont pas tellement tendus aux États-Unis par rapport à tout ça. On est passé de 3,90 à 4,60 sur le 10 ans américain avec tout ça, ce qui est pas mal. Moi, j'ai le sentiment qu'on est... Moi, je pense que les marchés risquent de rester entre 7,006 et 8,200 points. Les risques géopolitiques, il y en a toujours avec l'Iran, mais on sent très bien que pour l'instant, c'est maîtrisé. Du côté des banques centrales, on sait très bien qu'il va y avoir baisse de la BCE avant la Fed. Et du côté des résultats des entreprises, franchement, ce qui est sorti pour le moment, c'est pas si mal que ça. ça. Hein, ce matin, notamment, Crédit Agricole, c'est
vendredi.
Plus, vendredi, c'est plutôt bon. Et sur l'ensemble de l'année, le CAC 40, on devrait avoir plus 6 à plus 7% en termes de prévision de bénéfices. Donc moi, j'ai le sentiment que le marché risque de rester, par contre, entre 7006 et 8002. Il n'y a pas de catalyseur extrêmement négatif. C'est-à-dire qu'on ne voit pas un crack et on ne voit pas non plus une envolée lyrique, sauf si les opérations financières reprenaient dans le monde des big caps, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais même aux États-Unis, on avait des inquiétudes sur les publications des boîtes américaines.
Donc vous êtes plutôt rassuré, vous
ouais,
dites
bon, regardez Apple. Regardez Apple, on avait une grande angoisse sur Apple. Finalement, le titre se tient plutôt bien.
Ça ne vous fascine pas que Apple, juste sur l'annonce des résultats post-séance, remonte de 8%. Et 8%, ça fait quasiment 200... Non, mais ça fait 200 milliards de dollars.
Ben, ça avait quand même baissé de 15%. Et puis, attendez...
Non, je suis d'accord, mais 200 milliards
de dollars... Est-ce que ça ne vous fascine pas que Microsoft, la capitalisation est supérieure à celle du CAC 40?
Ah ouais,
non, mais c'est quand même c'est quand même aussi démentiel.
C'est dingue, ça.
On a eu une angoisse sur les résultats aux États-Unis des GAFA, mais finalement, on se rend compte que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de risques. Alors, il faut vraiment être dans une logique, pour moi, je ne sais pas ce qu'en pense François, il faut vraiment être dans
mais
une
je vais lui poser la question,
de stock picking en ce moment, plus que jamais.
François,
il est là. On a un changement de régime de volatilité, c'est vrai, courant avril, mais ça vient après
ça
un
veut
parcours.
Ça dire quoi, changement de...
Mais on avait des marchés qui étaient très calmes et qui montaient de manière quasi continue depuis le mois de novembre.
C'est pas non plus la grande agitation là.
Non, on est monté à 19 sur le
mois, magnifique. Et donc un mois de transition qui arrive juste avant les publications qui correspondent à celles du premier trimestre 2024, ça me paraît assez raisonnable et finalement très peu de fébrilité. Les indices tiennent plutôt bien. Et ils ont raison de bien tenir, les résultats sont excellents qui sont publiés. Et alors pour le coup, moi c'était mon top de cette semaine, mais les résultats aux États-Unis au premier trimestre ont été publiés, ils sont extraordinaires. Et donc on a effectivement des soutiens majeurs. Entendons-nous bien, le top 5, c'est-à-dire le S&P 5 versus le S&P 495 est en hausse, des profits en hausse de 65% face au reste de la cote qui est en recul de 5. Mais donc, ça veut simplement dire que cette concentration qu'on a de performance sur les grands champions, elle est justifiée toujours, encore au moment où je vous parle, on avait déjà eu cette discussion ouais. Marc, elle est toujours justifiée en ce début d'année par des croissances de profits extraordinaires. Et donc, vous avez
ce que vous êtes
des marchés
en train de
qui
dire,
tiennent
c'est...
très bien ouais. sur des publications de résultats. Et ce à quoi on assiste aussi, c'est des arbitrages qui sont à l'intérieur des indices, c'est-à-dire que l'indice ne monte pas de manière uniforme, et on voit bien la capacité de consolider de certains secteurs, y compris d'ailleurs dans les grandes valeurs américaines. On a vu Tesla consolider, on a vu Apple consolider, c'était significatif. Hein. Tesla, c'était moins 40% avant les publications, donc c'était vraiment des fortes consolidations. Ça n'a pas remis en cause la tendance en Europe, en France. On a eu la même chose avec le luxe, qui était un des gros poids lourds, qui a fortement consolidé, sans que ça remette en cause non plus la tendance de l'indice sous
Donc, vous donc, dites quoi que la...
Parce
que
on a deux un marché qui est solide.
Vous dites d'un côté, il y a une hyper-concentration des résultats, et donc une hyper-concentration des flux, et de l'autre côté...
Qui est toujours valable,
dites,
oui.
Qui est toujours valable, et de l'autre côté, vous dites que ça diffuse quand même, parce que même en Europe, le luxe...
Exactement. D'accord. On trouve des relais, et les investisseurs trouvent des relais sur les indices, sans aller sur des grosses corrections.
Donc, vous dites
des
quoi
des 5-6% qui sont très raisonnables.
Vous dites pas d'inquiétude, et même...
Pour l'instant, la lecture des marchés ne nous inquiète pas, parce que le marché a... mûrit cette hausse qui a duré 6 mois par une phase de consolidation. Il a attendu de voir les publications de résultats et celles qui arrivent aujourd'hui de publication, elles sont plutôt rassurantes pour la suite de l'exercice avec des communications qui sont aussi assez rassurantes. On parlait des publications du secteur bancaire par exemple en Europe, publications très solides au premier trimestre et surtout un coût du risque très modéré. Donc ça veut vraiment dire qu'on a sur le fond des entreprises qui vont bien.
Patrice, la bourse, ça vous inspire quoi ?
Alors, ça inspire qu'on a envie d'y rester et on a envie de continuer parce qu'en fait, effectivement, avec le panorama qui est décrit, même si l'inflation nous embête encore un petit peu, en définitive, le fait que la Fed laisse la porte ouverte sur quelques baisses de taux, une, deux ou trois, en quelque sorte, alimente la mécanique effectivement de poursuite de hausse des actions avec pas de, je dirais, de problème particulier sur les valorisations à partir du moment où l'actualité reste bonne globalement sur les bénéfices. Donc la mécanique continue. Le problème, ce sera peut-être le jour si la Fed de baisser ses taux, ça veut dire que l'environnement économique est moins bon et peut-être que...
Ou il y a moins d'inflation.
Moins d'inflation. Et après, si elle va au-delà, peut-être que le régime économique est lui aussi différent et donc peut-être que les bénéfices seront aussi moins intéressants et moins importants que la situation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, pour résumer, on est dans la meilleure des périodes.
Ah oui, carrément. Et juste, vous n'avez pas été surpris, je reprends le sujet de la première partie, que la hausse des taux d'intérêt si peu d'impact sur la croissance économique ?
Non, parce que je reviens effectivement sur ce que vous avez dit, et c'est exactement ça. La sensibilité de l'activité est moindre.
Donc on s'est trompé parce qu'on a beaucoup dit.
Non, on s'est pas trompé.
Il va y avoir un muant de la hausse des taux d'intérêt.
En Europe, dans l'immobilier, c'était compliqué.
Il y avait moins d'endettement du côté des ménages et du côté des entreprises avec une gestion beaucoup plus rigoureuse. Le seul agent qui s'endette, c'est l'État. Et l'État a, notamment aux États-Unis, eh bien, la Fed qui, quelque part, utilise un petit peu sa politique monétaire pour assouplir les conditions financières.
Valentine, vous voulez dire ?
Oui, je pense que ce qui a quand même porté les marchés ces 6 derniers mois, ça a démarré cette période très très rose, a démarré avec le pivot dovish de la Fed fin de l'année dernière, où la Fed a dit on est confiant sur la trajectoire de l'inflation. D'ailleurs, si on regardait en séquentiel à cette période, l'inflation tournait autour de 2% et on va pouvoir baisser les taux cette année. Là, donc ça, c'est ce qui a porté les marchés, mais aussi l'activité et l'activité économique, et ce qui a quand même aussi porté l'inflation. Aujourd'hui, pour moi, on reste dans une période qui reste positif pour les actifs risqués tant que les investisseurs anticipent que la Fed va baisser ses taux. Et là, donc
de toute façon, elle va baisser ses taux.
Elle va baisser ses taux.
La question, c'est de dire
est-ce que c'est en 2024 ou est-ce que c'est en 2025. Mais si on bascule sur un autre scénario où le prochain mouvement n'est pas une baisse mais une hausse, là, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué sur les actifs risqués.
Ce scénario, il existe vraiment ?
Bien sûr, ce scénario existe aussi sur les marchés pour l'instant. Pour le marché, il croit à 15%.
Allez, on passe tout de suite au placement de la semaine. Je me tourne vers nos spécialistes. Eric Lewin, vous allez nous dire enfin s'il faut aller ou pas sur les small caps.
Ben, il faut aller. D'abord,
c'est un peu l'arlésienne. Hein.
Non, c'est pas l'arlésienne du tout. Je vous ai dit en début d'émission que ça remontait fort depuis un mois. Ensuite, il faut deux éléments pour que les small caps se portent mieux, qu'on tente vers une baisse des taux. C'est ce qui va se passer en Europe et aux États-Unis, et que l'économie aille mieux. Et on a vu que les derniers indicateurs.
Si c'est l'arlésienne, comme vous me dites, c'est pas l'arlésienne. Ça fait 5 ans qu'on dit que ça va remonter.
Oui, mais c'est pas vraiment l'arlésienne. C'est une donnée. Une arlésienne, pour moi, c'est pas ça. Enfin, on peut en parler.
Non, mais ça fait quand même 5 ans qu'on nous annonce l'arlésienne.
Ouais, enfin, on a eu 10 ans de surperformance. Okay. C'est vrai que ça fait 5 ans qu'on a un peu dans une période Moi, je pense que c'est reparti avec deux choses aussi. Une autre chose, c'est que la reprise économique en zone euro, elle est pas forte, mais les indicateurs sont un petit peu meilleurs. Et vous avez beaucoup d'entreprises dans le monde des small caps qui sont positionnées sur l'Europe. Et on voit que les derniers résultats qui sont sortis, hein, je vais vous donner du Guillemot dans les accessoires vidéo, du Cogelec, ce genre de société, il y a eu de très bonnes satisfactions en bourse. Les actions ont monté entre 5 et 10%. C'est vrai qu'il reste encore un petit problème de liquidité, mais on sent quand même qu'il y a de l'appétit de plus en plus important.
Les fonds small cap recommencent à collecter.
Il ne recommence pas à recollecter, mais il ne décollecte plus.
D'accord.
Et on sent en plus qu'avec les opérations financières qui se multiplient, il y a de plus en plus d'appétence. Vous avez les particuliers aussi qui sont de plus en plus intéressés par les small. Il faut comprendre que les small, il y a une décote de 30 à 35% par rapport au monde du private equity, mais il y a une décote aussi par rapport au CAC 40, alors que traditionnellement, c'était l'inverse. Et puis, il y a eu les dernières OPA. Hein. Il y a l'histoire de Belive qui n'est toujours pas réglée. Il y a une OPA sur Micropole à 1,50. Le titre est 1,75 parce que beaucoup de gens parient sur une contre-offre. Il y a Orest Technologies, terminaux de paiement où il y a une OPA d'Advantech avec une prime de 60%. Donc on voit très bien que si vous voulez gagner de l'argent, eh bien c'est dans le monde des small caps, surtout en cas d'OPA, parce que les primes, c'est entre 40 et 70%, parce que quand vous êtes un gros fonds d'investissement...
C'est votre placement de la semaine ?
Ah ben ça reste mon placement de la semaine, bien évidemment.
Du mois et de l'année.
Je partage 100% de ce que vient de dire Eric Lewin. C'est-à-dire que je souscris à 100% de ce qu'il
dit. C'est noté, je prends.
Voilà, ça faisait partie de...
C'est bien comme ça, je pourrais être réinvité grâce à toi, voilà, François, merci beaucoup.
J'avais trois paris récents sur les marchés. C'est effectivement, en fin d'année dernière, le rebond des small caps, c'est vrai que ça a un côté un peu cyclique. En fin d'année, il y a plus d'habillage de fin d'année et d'intervention sur les small que sur des larges. Et ça s'est passé. On a quand même, depuis, un marché qui a du mal à trouver le relais et à attirer de nouveau des capitaux. Deuxième pari qui était un peu contrariant aussi, c'était les foncières cotées. La perspective de baisse des taux, ça a enflammé le marché.
Il faut continuer.
Et ça continue. Ça continue à monter quasiment tous les jours. Cette fois-ci alimenté par la reprise de distribution de dividendes, par des très bons résultats publiés, par des transactions aussi qui continuent. Et le dernier pari que j'avais qui était un peu contrariant, c'était la Chine. Et sur le mois écoulé, c'est la plus forte hausse des indices.
Et donc, vous continuez sur les mêmes paris.
Et on reste sur les mêmes paris, avec toujours un peu
donc
de...
Donc, les small caps, la Chine, les
fonds... Et l'immobilier coté.
L'immobilier coté. D'accord, bah très bien. Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine. Patrice, pour vous, le top ou le flop de la semaine, c'est quoi ?
Alors, j'appelle ça les services. Quand on regarde à la loupe, j'ai fait exprès, la croissance française que vous avez saluée de sa performance remarquable, 0,2%. Eh bien, merci les services, parce qu'effectivement, quand on regarde dans le détail de la progression de la consommation et de l'investissement, c'était là les bonnes surprises, en fait, de ces 0,2%. Eh bien, on voit que la consommation dans les services, c'est-à-dire, en fait, les transports, le tourisme et l'investissement notamment dans la nouvelle technologie et la communication. Toutes ces variables-là progressent non pas de 0,2, mais entre 1,5 et 2% sur le trimestre.
Grâce à
quoi ? Qui est effectivement très très important. Parce que grâce à, je veux dire, alors, il y a la mutation sectorielle ou structurelle de la consommation. Donc ça, c'est des événements importants. Et puis, il y a l'appétit, effectivement, envers les nouvelles technologies, en parallèle avec un peu d'achat de biens du côté des entreprises. Alors ça, c'est plutôt positif, je dirais, sur une croissance potentielle. Ça peut être éventuellement négatif s'il y a de la résistance du côté des prix des services, puisque là, il y a la demande est importante. Et ça pose aussi une question, parce que quand on compare ces chiffres-là, donc progression de l'ensemble des services 0,8 par rapport au 0,2, progression de l'industrie manufacturière, progression entre guillemets, moins 0,1. Où est la réindustrialisation de l'économie française? Ça ne marche pas, ça ne marche pas encore.
Non, mais ça, personne n'y a jamais cru. Non, franchement, ça, c'est un truc j'étais de 20 heures.
Alors, c'est un petit peu gênant parce que ça s'appelle France 2030 et on parle de l'énergie nouvelle. Alors, je suis un investisseur étranger, je regarde ce que l'on me propose comme opportunité.
François Chollet, le top ou le flop de la semaine?
Le top, c'était ce que j'ai dit initialement, la croissance américaine des profits, avec 3% qui était attendu par le consensus, ils ont fait 8. Donc on est vraiment sur une dynamique encore et toujours d'une économie américaine très robuste. Une prime de valorisation, évidemment, les États-Unis sont chers, mais c'est mérité.
Il y a une prime de valorisation ?
Historique, elle a toujours été entre l'Europe et les États-Unis, les multiples.
Mais elle est au plus haut là ou pas forcément ?
Pas forcément au plus haut, elle est significative par rapport à l'Europe, ça c'est certain, mais elle est méritée par la solidité des multiples.
Eric Lewin.
Le flop, Stellantis, qui perd 20% sur la semaine avec des mauvais résultats. Mais ce qui est marrant dans l'histoire Stellantis, c'est que ça arrive, cette histoire de très mauvais premier trimestre, quelques jours après les 36,5 millions d'euros accordés à Carlos Tavares. Je vous rappelle que 70% des actionnaires ont voté pour. Donc ça fait quand même un peu désordre, même si Stellantis reste une super boîte.
Elle a fait une progression spectaculaire.
D'accord, mais enfin, elle est quand même passée dans l'espace d'un mois et demi de 27 à 20 euros. Bien sûr qu'elle a fait une progression.
Elle vient de
13-14. Vous vous rappelez qu'on devenait fou parce que l'action ne montait pas, mais ce qui est drôle, c'est que ça arrive quand même au très 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 mauvais moment, parce qu'avec tout ce qu'il y a eu autour de les patrons, sont-ils trop payés, Carlos Tavares, c'est vrai que le pauvre, 15 jours après l'annonce...
Bah, le pauvre non, parce qu'il a pris son...
Ouais, il a pris 36,5 millions d'euros, mais c'est vrai que quand on voit après l'action s'effondrer, bon, on peut se poser des questions, et vous savez que du tout, que je ne suis pas du tout de gauche, donc je dis ça vraiment avec un petit sourire amusé.
Ah bon, vous n'êtes pas de gauche?
Non, toujours pas.
Top ou flop de la...
Est-ce que la gauche existe encore, Marc? Ça, c'est un vrai débat qu'on pourrait avoir.
Bah, on verra après les européennes. Top ou le flop cette semaine?
Allez, flop, natalité en Allemagne, où on a seulement 693 000 naissances. Donc c'est en baisse de plus de 6% par rapport à l'année dernière. C'est un plus bas depuis 2013, donc il y a les naissances qui baissent, il y a aussi les mariages qui baissent, hein, où on est un plus bas historique sur les mariages.
C'est à cause des
Moi, c'est les divorces.
Il tourne en Allemagne, il dit vous ne mariez pas, vous allez divorcer. Il a 8 divorces, c'est sûr que quand il se balade en Allemagne, il
n'inspire personne. On est un plus bas depuis la création des données en 1950 sur les mariages en Allemagne.
Alors oui, alors j'ai été quand même étonné, c'est que le taux de fécondité, il n'est pas si bas que ça. Parce
non,
que
on est à 1,4.
On est à 1,4 alors
ligne
que...
avec l'Europe.
Ah oui, surtout, mais surtout beaucoup plus haut que l'Italie, l'Espagne, le Portugal.
Mais bon,
on est quand même à 1,2.
On est quand même à 1,4.
Ouais, non, mais c'est étonnant parce que les pays qui étaient les pays traditionnellement en bas de tableau, c'est-à-dire le Japon et l'Allemagne, qui étaient à 1,4, où on pensait qu'à 1,4 c'était vraiment le plancher, bah là ça a explosé. C'est-à-dire qu'il y a des pays surprenants comme l'Italie et l'Espagne. Et puis, bon, on va pas en reparler, mais la Corée à 0,72. Enfin bon, c'est assez étonnant. Je trouve que je suis paradoxalement assez surpris que leur taux de fécondité
aussi élevé.
Tienne aussi bien, même bien. S'il n'est pas aussi...
Après,
bon.
Après, il y a le problème du renouvellement de la population. Et
exactement.
Là, l'Allemagne est très, très en retard par rapport à ça. Et donc là, la structure, le vieillissement structurel de l'Allemagne reste...
Mais on n'a pas encore de diminution de la population en Allemagne.
Non, pas encore. Mais après, il faut regarder aussi immigration et au total.
Donc, allez, on passe tout de suite au top 3. Pardon ?
Non, je crois qu'on avait encore des flops.
Ah non, mais ça ne dure pas deux heures. Hein. Allez, François, le top 3 des gérants. Pierre Chang, 9,2%. Pascal Sévy, 6,6%. Et pourtant, Eric Lewin a dit tout à l'heure que Valentine Hennouz était la meilleure intervenante féminine de cette émission. Je dis pour les femmes qui sont invitées à l'émission. Eric Blaine, 6% de hausse. Allez, maintenant, je voudrais une musique qui fait peur. Je sais par qui je commence. Allez, Eric Lewin. Je vais lire votre portefeuille. La France vous regarde, là, Eric. Hein.
Je sais. J'en ai conscience, c'est ce qu'Alain Pitous a tweeté ce matin en disant qu'il y avait 4 millions de personnes qui regardaient votre émission.
Reward Media.
On garde.
Genoé.
On garde.
Touax.
On garde.
Dassault Systèmes.
On garde.
Freelance.
On sort.
Pourquoi ?
Je trouve que la séquence des résultats n'est pas très bonne.
Ipsos.
On sort.
Moncler.
On est gagnant sur Moncler, je crois.
15% depuis.
On sort. Depuis oui, je sors du luxe. Vous n'avez pas fait de remarques sur Moncler, Berluti, l'équipe de France.
Non, j'ai pas le temps.
D'accord.
Capgemini.
On garde.
Assystem.
On garde.
Valourec.
Valourec, on garde. Et Katana et Accor, on garde.
Katana.
On garde.
Non, c'est moi qui fais les noms et vous.
Ah, d'accord.
Qui
d'accord.
Vous ne pouvez pas faire Valourec, Katana, tout
d'accord.
Ça. J'ai pas le droit.
Non, est-ce que Accor. Je voulais avancer l'émission pour
Accor.
François.
Non, mais moi, je prends mon temps.
D'accord. On garde.
Qu'est-ce qu'on achète ?
On achète du Robertet.
Ah.
Entreprise créée en 1850 à Grasse, cotée depuis 40 ans. On est dans les arômes naturels et les fragrances. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une société extrêmement rentable, il y a autour de 15% de rentabilité. Mais surtout, ce qui m'intéresse, puisque je suis un fouineur, c'est que la famille Maubert, avec son président qui a 72 ans, détient 37% du capital. Mais qu'à côté, il y a Givaudan qui a 5% du capital. Et un autre concurrent qui s'appelle Firmenich, qui a 21%.
Vous avez bossé le dossier ?
Ouais, ouais. Ah oui, je vous dis, depuis le 30 avril, je bosse. Et comme le 1er mai, on bossait pas, j'ai une journée de plus. Donc, moi, ce que je me dis sur ce dossier, c'est que c'est pas encore très très cher en VE sur EBITDA, c'est autour de 15, parce que l'ensemble du secteur se paye beaucoup plus cher. Donc, boîte bien gérée, bonne situation financière. Il peut y avoir un sujet d'OPA sur ce dossier. Donc, si j'avais une liste des OPA,
vous le mettrez.
Je pense que Robertet, je le mettrais... parmi les sociétés qui pourraient être un moment ou un autre rachetées sur le marché parisien, et sans doute nettement plus, puisque ce que j'ai oublié de préciser, c'est que depuis un an, il ne se passe pas grand-chose sur le titre, il gagne 1%, on vaut 880, le plus haut c'est 1068, et en cas d'opération financière, si on fait les comparables, on est plutôt sur un prix de 1300 à 1400 euros. Donc c'est mon conseil de la semaine.
Est-ce que je peux avoir la musique qui fait peur ? François Cholet.
Je suis là.
Vous avez peur ?
Pas encore.
AXA.
En garde.
CGG.
On pleure, mais on garde.
Ouais, pas trop. Ah oui, un peu quand même. Trigano.
On garde.
Kering.
On souffre un peu, mais on garde.
Vous gardez ?
Oui.
Pensez qu'elle est bien gérée, la boîte ?
Je pense que ça prend du temps de refaire une marque. Un an, c'est un peu court. Il faut laisser un peu de temps pour que les investissements sur Gucci commencent à délivrer. Je vous que le marché se lasse, et je peux le comprendre. On est à des valorisations. On reçoit les résultats sur un groupe de luxe.
Il se lasse et surtout, il s'inquiète de la compétence du management, quoi, en fait, global, quoi.
Oui, mais on voit bien émerger des gens compétents à l'intérieur du groupe aujourd'hui.
Siemens.
On garde.
Et Lili Lai.
On garde, évidemment.
Beau carton, hein, 30% depuis le début de l'année. Microsoft.
On garde.
Novo Nordisk.
On garde.
C'est quand même fou, hein, Patrice, Novo Nordisk, plus que le PIB du Danemark. Incroyable. LVMH.
On garde.
Il a beaucoup de luxe quand même, hein. Vous ne lui faites pas de...
Non.
Moi, j'aurais eu deux boîtes de luxe, vous auriez dit le luxe.
C'est vrai.
Pourquoi vous dites rien ?
Bah, parce que, je ne sais pas, il n'est pas habillé en Berluti. François Cholet, qu'est-ce qu'on achète ?
Alors, j'ai oublié, Alten, on vend.
Alten,
Oui, publication décevante, secteur des services.
C'est rare qu'ils déçoivent Alten, ils déçoivent jamais depuis...
C'est cela, et c'était une valeur de qualité et de croissance. Sur la dernière publication, j'ai un petit doute, donc je préfère vendre.
Ah ouais, ok. Et qu'est-ce qu'on achète, François ?
Alors, deux idées à l'achat. Technip Energy, qui est un leader dans la transition énergétique, une valeur qui, à mon avis, va devoir être redécouverte par le marché, notamment avec ses qualités de fondamentaux et surtout un carnet de commandes absolument extraordinaire. Un des grands leaders du gaz liquéfié également. Donc c'est un joli dossier à mettre en portefeuille. Et puis une valeur que je vais reprendre à Eric Lewin, c'est Dassault Systèmes. Dassault Systèmes qui est en retard.
Et oui, Marc.
Qui a déçu les investisseurs aussi, qui est une magnifique valeur de croissance. Et je suis assez convaincu que les prochains trimestres seront de nature à redonner de la confiance sur la capacité de croissance. Tout simplement parce qu'il y a eu un changement de management, qu'il y a des relais à trouver sur les nouveaux outils. Et je pense
technique,
que Dassault Systèmes.
Ça fait quoi depuis le début de l'année
vous ça est plutôt pas mal, mais ça.
Pas mal, ça a déjà un peu rebondi ou pas
ça, oui, ça a un peu consolidé suite à la publication là, mais je pense que c'est un dossier qu'on peut avoir en portefeuille.
Merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale. Ça va être pour la première fois les spéciales battles de l'argent. On va faire la battle or contre Bitcoin, la battle bourse contre produits de taux d'intérêt avec des poids lourds de la finance et du placement. Et n'oubliez pas, parce que ça marche très très fort, que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter en replay, en podcast sur la plateforme BFM et sur toutes les plateformes.